suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Les travaux du CPC cadre permanent de concertation se sont déroulés le mardi dernier avec la présence de différents acteurs politiques sur les 6 points prévus à l'ordre du jour. La question des élections sénatoriales a dominé les discussions. Le ministre de l'administration territoriale qui a dirigé les travaux a fait le point des préparatifs des sénatoriales avant d'ouvrir les discussions pour recueillir les différents points de vue des uns et des autres. La DMP et d'autres partis politiques de l'opposition ont réitéré leur envie de ne pas participer à ces élections au ministre. Nous parlerons du sujet dans cette émission du jeudi 26 décembre 2024. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir et bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akuta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre à travers nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes en studio, c'est bien Michel Yao Tadja. Michel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Ambroise, bonjour Jean.
Là, finalement, je ne sais pas si c'est la fête qui a cassé la voix, puisque je connais cette voix.
Non, elle est là, non.
La bouteille d'hier.
Peut-être le moral, oui, parce que la presse, tu sais ce que c'est actuellement avec la presse. Peut-être le moral. Mais ça va aller. À partir du moment où on a le souffle, ça va aller.
C'est l'essentiel.
Je voulais dire aussi bonjour à nos amis techniciens, Gérald et mon nom est Michel. Je voulais d'entrée de jeu interpeller. Nous interpeller, nous les usagers de la route, surtout les motocyclistes. Vous savez que depuis une ou deux semaines, pratiquement, on constate les gros lots dans presque toutes les rues de Lomé dans la circulation. Et puis à tout moment. Avant, on peut parler les gros lots là le matin, 7-8 par là, 6-7-8, et puis le soir en rentrant. Mais vous avez constaté avec moi que depuis un certain temps, mais les motocyclistes se comportent d'une manière, surtout au niveau des feux rouges, un peu avant, comment les motocyclistes se comportent. Franchement, il faut que nous fassions extrêmement attention à partir du moment où vous avez le ministère de la Sécurité est en train d'appeler les uns aux autres au respect du code de la route, au respect des principes et des règles qui sont édictées dans la circulation pour permettre de sauver des vies humaines. Voilà, c'est très important.
D'accord.
Il faut que nos amis motocyclistes vraiment comprennent que comme je l'ai toujours dit, nous sortons avec notre vie elle-même. Il n'y a pas de photocopie à la maison. C'est elle-même. Au cas où il y a un problème, c'est que vous allez voir que ça va créer des problèmes. Par ces temps qui courent, la vie est tellement chère. Il faut quand même qu'on se protège au maximum. Et donc, avis est lancé donc à nous tous, même ceux qui sont dans les voitures, de faire extrêmement attention. Parce que moindre chose, ça peut créer des problèmes, en tout cas dans la circulation. Ambroise ne va pas me démentir.
Non, mais
il est un grand observateur dans la circulation.
Oui. Et Ambroise, bonjour, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les autres confrères ici présents. Bonjour les auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis Lomé et l'intérieur du pays jusqu'au-delà de Lomé. J'appuie tout ce que Michel a dit parce que c'est ahurissant. On va y revenir sûrement dans la prochaine année. Mais moi, je voudrais relever un truc que j'observe au niveau du CEG à Dido-Gomé, qu'on appelle aujourd'hui lycée moderne 2, en face de la fameuse cité Mokpokpo, lycée technique, contigu au lycée technique. Vous allez voir qu'il y a un terrain de foot, de jeu qui est là, qui est exploité par et l'établissement scolaire et d'autres établissements scolaires pour faire le sport. Vous allez aussi remarquer qu'il y a des arbres qui sont tout autour. Il y a même des sites d'aération parce qu'il y a de la fraîcheur, parce qu'il y a de l'arbre. Les gens s'asseyent souvent les après-midi pour prendre de l'air. Les gens jouent au petit poteau. Souvent, il y a deux équipes dans la zone qui viennent souvent faire leur entraînement, même les équipes d'enfants. Mais il y a de cela un mois et plus, on a coupé tous les arbres. On a coupé tout, non seulement tous les arbres, on a encerclé le terrain. D'abord, dans un premier temps, la moitié du terrain par des tôles pour, dit-on, des travaux, je ne sais quels travaux. Et ensuite, trois semaines après, on a tout descendu. On a couvert tout le terrain. Je me demande, où est-ce que les enfants vont faire du sport? Et après investigation, il semble que c'est la mairie qui est en train d'opérer des travaux là-bas, sans qu'il y ait des plaques ou des panneaux de signalisation qui indiquent qu'il doit y avoir un travail, comme le fait souvent le ministère des Travaux publics. On écrit maîtrise d'ouvrage, maître d'ouvrage, quels travaux, rien du tout. Et maintenant, ce qui est encore grave que j'ai remarqué, c'est leurs histoires de foire qu'on a mis là-bas. Ah, je suis choqué au point. Pour vous dire que on avait déjà dénoncé ça, de retirer les compétences aux mairies. Les écoles n'appartiennent pas aux mairies. Je ne sais pas ce qui pousse le gouvernement à laisser les écoles, les emprises des écoles dans la main des communes. Moi, je suis contre ça. Parce que, oui, il faut juste aller voir ce qui se passe. La désolation. Cette chaleur, ils ont tout coupé comme arbre. Ils ont coupé les arbres. Et moi, j'imagine qu'on devrait déjà commencer les travaux parce que, après investigation, j'ai remarqué, où j'ai appris qu'il doit y avoir des complexes scolaires. Basketball, handball, tout ça là. Et après, c'est peut-être la vente.
Là, c'est un complexe sportif plutôt.
C'est ce que j'ai appris, ouais. Qu'on devait. Même le proviseur, il semble. Il y a un enseignant qui m'a interpellé, qui est au niveau du lycée, qui m'a interpellé, qui aussi soupçonnait. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils amènent les enfants souvent faire le sport là-bas. Et maintenant, on a mis des trucs bizarres là-bas pour faire la foire. Donc, pour la mairie d'Offset, eux, c'est l'argent. Et pourtant, les agents ne sont jamais payés à temps. Les agents de la mairie Govset souffrent. Les gens ont eu des avancements, ont été intégrés comme fonctionnaires depuis pratiquement 2 ans. Ils n'ont jamais vu leur salaire augmenter. Maintenant, c'est des histoires de foire. On coupe les arbres, on déracine tout là-bas, comme quoi il y a un projet dont on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas pourquoi on a créé la mairie finalement.
D'accord, ok, mais merci.
Je ne sais pas pourquoi on a créé la mairie. Parce que même toutes nos entourages sont survoltés. Parce qu'on ne dit rien à personne, on coupe les arbres, on vous dit qu'il y aura un complexe, rien ne se fait, maintenant c'est la foire. Donc c'est l'argent qui préoccupe la mairie d'Offset, et pourtant les gens ne sont pas payés.
D'accord, merci Ambrage. Jean-Paul Rény, bonjour.
Bonjour Pascal,
bonjour. J'espère que tu vas bien.
Je vais bien, par la grâce de Dieu.
Nous sommes au lendemain de la nativité. Je pense quand même que tu t'es remis alors de la fatigue.
Oui, on s'est remis de la fatigue. Tu sais que nous étions toujours en bouclage, okay. Notre journal à Paris aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons juste accompagné ceux qui ont fêté, mais nous étions encore au boulot pour vous faire vivre l'information. Donc, je salue également les confrères en studio. Mes salutations aux techniciens derrière la baie vitrée qui nous ont accompagnés pendant 1 an et à toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont supportés tous les jeudis. Et un coucou particulier également aux fonctionnaires de la République togolaise qui apparemment vont bien fêter cette année.
Puisque quand vous dites que les auditeurs vous ont supporté tout au long, enfin chaque jeudi, tout au long de l'année, nous aussi, nous avons vraiment ce rôle à jouer. Et je sais que nous aimons, enfin nous faisons bien aussi ce rôle, nous jouons bien ce rôle, j'allais dire. Et chaque jour, le club de la presse s'invite dans les maisons et au-delà des maisons, même dans des ateliers aussi, dans des comment l'appelle-t-on, dans l'administration. administration, et des gens nous suivent partout, et ça fait toujours plaisir. Et quand vous parliez alors du fait qu'ils nous ont supportés, je voudrais dire que allez, c'est aussi dans l'ordre normal des choses qu'on nous supporte alors pour chaque année pratiquement. Et nous sommes au dernier jeudi même d'ailleurs de l'année 2024, puisque déjà l'année nouvelle se projette déjà, ouais. Et très imminent, j'allais dire. Alors, Magola, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour aux confrères Ambroise, Jean, Michel. Bonjour à nos amis techniciens, grâce à qui on nous suit 5 sur 5, de Lomé à Dapaon. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent, particulièrement à un aîné qui n'est pas un auditeur, mais un acteur de la maison, jusqu'à un passé récent, Sas Gaou.
Voilà.
De qui vous avez royalement pris la relève. Et je peux lui affirmer que ben, partout où il est, il doit être fier de vous parce que vous assumez pleinement.
Merci beaucoup, ma gloire. Je pense que c'est un travail que nous faisons tous ensemble. Et c'est grâce à vous également que nous aimons le faire. Nous avons l'inspiration de le faire. Et également, au passage, nous saluons Sas Gaou qui nous suit fidèlement dans cette émission Club de la Presse.
Alors, je ne pourrais pas peut-être... faire une chute comme cela sans souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, la fête de la nativité, vous savez, lorsque vous êtes apprenti chrétien, vous devrez savoir que Jésus-Christ est venu sur terre pour se sacrifier, hein, pour que nos péchés soient pardonnés par le Tout-Puissant et que nous autres humains continuons toujours pas à vivre pleinement notre foi chrétienne. À tous les chrétiens du monde, joyeux Noël.
Joyeux Noël. Merci beaucoup, Magloire, d'avoir répondu à notre invitation. Ça continue, bien sûr, Michel. Alors, Michel, c'est vrai, vous avez touché la sécurité routière tout de suite en interpellant les usagers de la route. Et c'est dans l'ordre normal des choses, bien sûr, parce que nous sommes à la fin, en période alors de fin d'année, et vous l'avez si bien dit, nous constatons de l'embouteillage dans la circulation. Et il y a le ministère de la Sécurité qui a lancé tout récemment une opération, et c'est l'opération Kelegou.
Oui.
Voilà l'opération Kelegou, et qui est un Naudom. Et cette opération qui signifie vigilance, il y a le journal Le Bilan qui est revenu sur cette opération aujourd'hui. Le Bilan écrit sécurité nationale, l'opération Kelegou lancée pour renforcer la vigilance pendant les fêtes de fin d'année. Alors, ça veut dire que pour cette interpellation que vous avez faite tout de suite, oui, il y a le ministère de la Sécurité qui vous écoute bien.
Ah oui, je pense que c'est un devoir pour nous, en tout cas de traduire dans les faits donc, cette interpellation du ministère de la Sécurité qui veut protéger les citoyens sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons le devoir de relayer cette information. Et ce que nous observons sur la route, il faut quand même qu'on essaie d'interpeller les consciences, bousculer les consciences, j'allais dire, pour que des vies humaines soient protégées au maximum. Vous savez que quand on est en fin d'année comme ça, il y a des situations que nous ne souhaitons pas, et nous ne devons pas aider à créer ces situations-là. Nous devons aider à empêcher que des vies humaines soient emportées, parfois dans des conditions vraiment bizarres, qu'on aurait pu éviter, j'allais dire. Et donc, il faut quand même que cette opération Kelegou, qui est, comme tu l'as dit, c'est en langue Naudum, c'est une opération qui concerne toute la population togolaise, en tout cas ceux qui vivent sur le territoire togolais et au-delà. Parce que j'ai aimé cette approche du ministère de la Sécurité, parce que on sent que on pense à nous, les usagers de la route. Nous sommes tous concernés, du cycliste jusqu'au conducteur de remorque et tout. Vous savez, il y a pas deux jours où il y a encore un incident au niveau de Togolekope, où un camion est venu aussi, qui voulait traverser les passages là. Il a été bloqué là-bas. parce qu'il a surchargé. J'espère que les sanctions, s'il y en a, on va prendre des dispositions pour sanctionner ces chauffeurs qui sont indélicats. Parce que malgré tout ce qui est mis en œuvre pour amener les uns les autres au respect strict du code de la route, il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et à ces messieurs ou dames-là, il faut les amener à comprendre que l'État existe et qu'en le faisant, ils ne font pas seulement mal à eux, mais ils font mal à tous ceux qui circulent dans, en tout cas sur la route. Et donc, ils doivent être normalement sanctionnés, je crois fermement.
D'accord. Et vous l'avez souligné que ces gens-là doivent savoir que l'État existe et il faut que l'État joue sa responsabilité. Et c'est là où vous parlez de la sanction pour qu'on reconnaisse vraiment l'autorité de l'État. Merci beaucoup, Michel. Alors, Ambroise, quand on prend cette question de sécurité, beaucoup des gens, hein, beaucoup qui ont écouté, la population surtout, qui ont écouté parler de cette opération, on craint surtout un certain nombre de choses comme la bavure policière et aussi des racutages au cours alors de ces opérations. Mais je pense quand même que c'est des phénomènes qui viennent ternir l'image de l'opération.
Oui, d'abord c'est une bonne chose. Je me rappelle il y a 5 ans, j'avais dit quelque chose ici et Loïc Lawson m'avait... J'avais dit un truc pareil qui serait pas... Il serait opérant que le ministère de la Sécurité opère dans les quartiers pour dénicher des faux, d'ailleurs des dealers,
les virus,
tout ce qui est virus humain et physique comme ça, sans bavure, en le faisant sans bavure. Et j'ai dit que c'est un plan que je vends au ministère de la Sécurité. Et Michel s'est rappelé.
Et finalement, le ministère l'a acheté, c'est ça?
Oui, non, ils l'ont même exécuté en ce temps-là.
D'accord.
Et Loïc me demande en ce temps-là que je le vends comme il est à 5 milliards de francs CFA. C'était autant de Yak, Gérard Yak Damgan. Donc, moi, je suis d'accord que cela se fasse pour pouvoir exfiltrer nos quartiers des voyous, des brigands de toutes sortes. C'est vrai que le Togo n'est pas rempli de ces criminels de haut calibre quand même. Ça, il faut le reconnaître. C'est des gens qui ont faim et qui cherchent à manger. C'est d'autres qui trouvent la vie facile. C'est-à-dire, eux, ils ont la facilité. Et donc, quand la vie est facile, ils pensent qu'il faut tuer. Ça aussi, ça arrive actuellement dans notre pays. Ils pensent qu'il faut escroquer, il faut dribbler, il faut faire du mal. Il ne faut pas faire du mal à autrui. Ça, tous les livres saints, la Bible que moi, je lis, souvent j'adore, ne le mentionne pas. Et donc, c'est un crime quand tu le fais. Maintenant, j'ai appris aussi qu'au niveau d'une gendarmerie, de vers Salvador, quelque chose là-bas, j'ai appris, je crois que c'est une révélation de Ferdinand, hein, je l'ai suivi, en attendant à le prendre avec des gants, que des racottes ont été faites. On a saisi des gens, on leur a arrêté, on les a embrigadés dans une gendarmerie là, et on a rançonné à 100 000 francs de francs CFA en appelant les parents à venir les récupérer, tout ça. C'est pas tout ça là, si c'est vrai ou pas. Mais ça sonne le glas de ne jamais aller sur le terrain de la rançon ou des raquettes. Parce que déjà, certains citoyens le disent, mais je pense que c'est... même si on considère que le salaire d'un agent de police ou de la gendarmerie n'est pas aussi éloquent comme on puisse l'imaginer, ça ne peut pas donner l'occasion à certains agents, je dis bien à certains agents, pas tous, il y en a dans tout corps de métier des brebis galeuses, de se comporter...
Des agents indélicats.
Indélicats, de se comporter comme cela. Moi-même, j'en ai été victime, je crois, le lundi, en venant du Grand Marché vers vous ici. Et il y a un agent là, lui, il est dans un véhicule immatriculé, plaque verte, c'est-à-dire plaque publique. Et vous n'imaginez pas ce qu'il conduit sur la voie. Tout le monde crie, mais il continue. Mais là, il ne continue pas à chauffer les gens en descendant les vitres, en insultant. Il a voulu même cogner. Ça y est, je ne sais pas là où il va. Ça, c'est un autre point de la chose. Maintenant, quant à ce qui concerne la patrouille de nuit ou de jour, je crois que le ministre doit jouer sérieusement sur ce volet-là pour qu'il n'y ait pas de gabuge, pour qu'il n'y ait pas de problème entre civils et policiers ou gendarmes sur la voie. Parce que quand ça va commencer comme ça, surtout en période de fin d'année, tous les esprits sont agités en période de fin d'année. Il faudrait que le ministère aussi l'intègre dans eux, ils le savent depuis. Mais la période à laquelle ils ont choisi ça, ça peut aussi permettre à certains de prendre des 1000 francs, des 2000. La dernière fois, c'est moi qui les défendais ici en disant que quand on prend les 2000 francs, les 10 000, les 2000, ce n'est pas l'agent qui demande très souvent. C'est souvent le conducteur qui se permet de tendre en premier le billet pour pouvoir se libérer et aller rapidement là où il va. Et ça, on appelle ça la corruption. Et la corruption vient souvent du corrupteur. Et donc, celui qui est corrompu aussi est fautif, mais en plus, en premier, celui qui est conducteur.
Mais là, c'est parce que le conducteur sait qu'il est en faute, il est en erreur, et donc pour pallier...
Des fois, très souvent c'est ça. Très souvent c'est ça. Soit la personne n'a pas de permis de conduire, soit la personne n'a pas de pièces pour le véhicule, ce qui est aussi rare, il y en a. Pour le permis aussi, il y en a, mais aussi rare. Mais il y a aussi des papiers, moi que je qualifie de, pas un film, mais visite technique, DSL, tout ça là.
D'accord.
Mais l'assurance aussi est très importante. Et donc, je crois que la faute vient de tous, des deux. Mais plus de celui qui corrompt. Il y en a même qui ont tous les papiers. Mais le fait qu'ils sont en retard d'aller dans les jeunes vides, on va leur perdre du temps. Ils sont obligés de passer. Donc, moi, je demanderai à ce que ces opérations se passent dans le calme.
D'accord.
Dans le respect des autres. Vous allez voir des gens conduire des motos avec des bidons jaunes derrière, en comment on dit ça? Ils sont au moins 6-7.
Et qui filent sur la route?
Moi, devant mon portail, c'est deux fois, ils passent. Ils passent, ils s'en foutent de qui quelqu'un passe ou pas. Est-ce que vous suivez ça? Casablanca, ici, vous allez voir, ils quittent le Ghana, ils rentrent dans la pharmacie Croix-Blanche directement. Sans savoir si il y a quelqu'un sur la route, quoi. D'ailleurs, ils sont en train de fuir les forces de sécurité, alors qu'il n'y a aucune force de sécurité là-bas. Et ça peut se créer d'autres accidents.
D'accord.
Parce qu'ils ont peur qu'on va les arrêter.
Merci beaucoup, Amroise. Oui, Jean, quand on prend cette opération Kaligou, lancée par le ministère de la Sécurité, oui, nous pouvons saluer alors cette opération, parce que on connaît aujourd'hui déjà avec les accidents de la route de ces périodes alors de fin d'année, et aussi au-delà de cela, il y a aussi des actes de criminalité.
Oui, c'est une opération à saluer parce que vous n'êtes pas sans savoir que en fin d'année, tout le monde est pressé. On ne sait pas où les gens vont, mais on remarque que les gens sont tellement pressés. Tout le monde veut nécessairement fêter, mais certains se donnent le malin, ou je dirais le vilain plaisir, de s'approprier ce qui n'est pas leur dû, ce qui n'est pas de leur propriété. Et l'État a le droit de protéger les citoyens, les honnêtes citoyens. Et c'est dans ce cadre que cette opération est mise en place. Nous saluons l'effectivité de cette opération. Comme Ambroise l'a dit, il faut également éviter les bavures. On se rappelle, pendant la COVID-19, il y avait une opération pour protéger les citoyens, mais également on avait dénombré quelques bavures avec mort d'homme. L'idéal est que le travail soit fait, bien fait, parce qu'il faut protéger les Togolais, mais également dans la protection, nous encourageons les forces de l'ordre à avoir la maîtrise de soi. Parce que, vous savez, quand il y a les fêtes, il y a des individus qui prennent des stupéfiants, de l'alcool, et qui peuvent parfois ne pas obtempérer directement aux injonctions des forces de défense et de sécurité. Donc, avec ces gens, il faut également avoir de la maîtrise. Il faut savoir comment les gérer, même s'ils sont en infraction. Savoir comment calmer le jeu, parce que, après tout, quand un Togolais meurt, c'est une vie humaine qui est partie. On ne peut pas ramener une vie humaine avec de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on fasse le travail, mais en même temps, qu'on sache raison garder avec professionnalisme, et je sais compter sur nos FDS pour faire le travail qu'il faut.
D'accord. Nous avons compté sur nos forces de sécurité et de défense alors pour faire le travail qu'il faut. Magola, quelle analyse vous faites alors de cette opération?
Non, mais je crois quand même que toute initiative qui concourt à l'instauration justement de la sécurité dans le pays, nous approuvons. Et j'ai particulièrement aimé l'approche nouvelle là qu'a introduite l'ambassadeur Majulba, qui parle de coproduction de la sécurité. Alors, ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend que faire asseoir la sécurité dans le pays ne sera plus seulement qu'une affaire ou que ne sera plus que l'affaire, n'est-ce pas, des forces de sécurité et de défense, mais également de la population. ça appelle à une franche collaboration entre les civils et les agents de sécurité. Alors, quand vous prenez un peu, ne serait-ce que l'intitulé justement de son ministère, on parle de la sécurité de la protection civile. Ça voudra dire quoi? On est obligé, comme je le disais tantôt, à collaborer, à marcher ensemble. Mais je crois que la prière de tout citoyen togolais est que cette opération-là, que nous saluons d'ailleurs, ne soit pas une opération de plus. Mais alors, pour que ça ne soit pas une opération de plus, il va falloir que chacun joue pleinement son rôle. Parce que par le passé, on a connu assez d'opérations, assez d'initiatives, mais qui n'arrivent pas à s'inscrire dans le temps. Et quand vous vous lancez dans une approche un peu analytique des différents éléments qui ont concouru peut-être à l'échec de ces opérations, c'est que vous allez vous rendre compte que oui, l'idée elle est bonne, émanant des autorités, sauf que dans la mise en œuvre de ces opérations, il y a des maillons de la chaîne qui se rendent défaillants complètement. Voyez-vous, tout à l'heure, Ambroise, dans son développement, parlait de ces éléments-là. Tous ceux qui habitent à Lomé, déjà partis de collègues protestants jusqu'à vers Douana Didogomé, seront de quoi ils parlent. Vous êtes là d'un coup, c'est des agents, enfin, c'est des motocyclistes qui sortent d'un coin à vive allure, sans savoir que la circulation, elle est mouvementée ou pas. Ils travaillent parce qu'ils ont de petits colis sur leur moto. Dieu seul sait ce qu'ils en ont dedans. Mais vous vous demandez, vous vous posez la question même. Ils ont souvent, c'est des gens qui viennent du côté Ghana. Mais vous vous posez la question. Mais pourtant, il y a des agents tout le long du corridor.
Qui prennent 100 francs, 100 francs.
Voilà. Bon, moi, je ne suis pas là pour savoir qui ne prennent pas. Mais moi, je pose la question de savoir...
Est-ce qu'on peut penser à une complicité également dans cette histoire?
Tout porte à croire. Parce que si ces gens-là qui font une irruption comme ça dans la masse, et ils ne se soucient même pas de leur propre sécurité, ni de la sécurité des usagers de la route, ils rentrent dans la circulation justement parce qu'ils cherchent des... Voilà,
des passerelles
pour passer très vite. Ça voudrait dire qu'ils se reprochent de quelque chose à la base. Mais posons-nous la question de savoir comment est-ce qu'ils ont pu traverser la frontière pour arriver en ville. Voilà la question qu'on se pose. C'est pour ça que je dis, l'opération, elle est bonne, mais il va falloir être plus regardant dans la mise en œuvre de ces opérations-là. Même quand on prend la sécurité routière, prenez la route de Lomé à Dapaon, vous allez voir les gros porteurs qui parfois sont surchargés à plus de deux fois la hauteur du camion. Pourtant, il y a des différents points de contrôle sur la route. Vous vous demandez, mais comment dans ce pays, il y a la loi, quoi? C'est pas une loi, mais on parle de charge à essieu, non?
Oui.
Ça fait plus de 5 ans que ça dure, sinon plus. Mais par où ces camions-là sont passés et on ne leur a pas intimé l'ordre de décharger tout ça? Et ils arrivent jusqu'à hauteur à Tapamé, je ne sais pas, à Sokodé, ainsi de suite, jusqu'à Dapaon. La question est là. C'est pour ça que je dis, chaque maillon de la chaîne doit essayer de faire valablement son travail.
D'accord, chacun doit jouer sa partition, son rôle, pour que la société marche bien. Et nous sommes rejoints par notre confrère Lom Atisogbe. Lom, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà,
bonjour,
nous sommes en train de parler de cette opération Kéligou, qui est lancée tout récemment par le ministère de la Sécurité. Alors, au-delà de la sécurité ou de cette opération, c'est l'individu, le citoyen même, doit savoir quand même qu'il est en quelque sorte le garant de sa propre sécurité.
Oui, ça c'est très important. Vous savez, on doit rester justement discipliné et avoir le sens de la responsabilité. C'est très important. C'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'individus, on doit se fixer des limites dans certaines choses. C'est Michel qui a l'habitude de dire, et je le répète tout le temps, que personne ne sort de la maison avec la photocopie de sa vie en main.
Il vient de le répéter.
Ah oui, mais c'est clair parce que moi j'ai l'habitude de le répéter aussi. Que les gens sortent le matin un peu comme si, je cite Michel, hein, comme s'ils avaient la photocopie de leur vie en main, qu'ils ont laissé l'original à la maison. C'est-à-dire, ils vont, ils reviennent, ils reprennent l'original. C'est pas comme ça. On n'a qu'une seule vie. Et c'est important pour tout le monde de pouvoir savoir que la vie est sacrée, elle est précieuse. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas justement mettre en danger. Non, on ne peut pas nous-mêmes se faire harakiri, c'est pas possible. Donc au-delà du communiqué du ministère de la Sécurité, c'est l'occasion d'appeler les uns et les autres, chaque compatriote, à un sens élevé de responsabilité par rapport justement à cette période de fin d'année. Les gens qui boivent ou bien qui sont dans l'excès d'alcool et qui prennent le volant, les gens qui sont sur leur moto parce qu'ils ont, voilà, et ils roulent à vive allure, des camions qui dépassent la hauteur maximale exigée, le gabarit exigé, tout ça, ça fait partie du sens de la responsabilité. Et par rapport justement au camion, Michel l'a toujours dit ça ici, je me rappelle, que ben, les gens circulent avec des camions. Après, quand vous posez la question, vous dites que c'est pour telle autorité, tel monsieur, est-ce que vous pouvez faire, etc. Ça aussi, on doit interdire ça, parce que depuis un moment, on parle du règlement 14 de l'UEMOA. Ça fait longtemps qu'on en parle. La hauteur maximale d'un camion qui sort du port, c'est 4,5 mètres. C'est ça le règlement 14. Vous avez 4,5 mètres de hauteur sur un plateau de 2,55. C'est ça les dimensions standards selon le règlement 14. Mais quand les camions sortent du port, on ne sait pas comment le contrôle se fait. On ne sait pas si après, quand le conducteur quitte le port, il va surcharger le camion en cours de route, parce que ça se fait. Vous avez le poste de péage de Girouille, les gens viennent avec le poids normal, avec la hauteur normale. Ils font le contrôle, ils s'en vont, et plus loin, vous allez voir, en train de surcharger le camion parce qu'il n'y a plus un autre Girouille devant. Ils ont fini le contrôle. Mais ça aussi, c'est ça on appelle le sens, c'est de l'indiscipline. Mais vous vous demandez,
de
après,
aussi.
Vous vous demandez après si c'est le chauffeur qu'il fait ou c'est le propriétaire du camion qui lui a demandé de faire. C'est pas normal. Vous avez 4,5 mètres standard qui sortent du port. Vous arrivez devant une passerelle ou bien vous avez déjà un portique qui est à 5,5 mètres de hauteur. Vous avez une passerelle qui est à 6 mètres de hauteur.
Ce qui veut dire que vous pouvez passer facilement.
Maintenant là, vous savez que par rapport au règlement 14 de l'UEMOA, les critères de convergence, ils sont allés jusqu'à un taux de tolérance de 15%. C'est-à-dire, les pays ont dit, bon, il faut qu'on nous donne un seuil de tolérance de 15%. C'est-à-dire, par rapport à la hauteur. Donc, les gens, ils continuent de discuter. Mais quand votre camion sort du port, vous avez des vies qui sont en danger. Vous avez vu, quand un camion circule ou est en circulation, nous tous qui sommes derrière ou à côté là, on fait quand même doucement ou on veut quand même passer vite. Parce que tous les camions aujourd'hui représentent des dangers.
Voilà.
Oui, tous les camions, sans exception. Vous pouvez voir le camion comme ça, bon, propre et tout, mais après, on va vous dire que bon, il veut faire un virage et puis voilà, le plateau ou le conteneur est tombé ou ceci ou cela. Donc, c'est l'occasion d'appeler. Moi, je sollicite même qu'il y ait une réunion entre le ministère des Transports et le syndicat des transporteurs. Cette histoire-là, il faut qu'on arrête ça. Les camions surchargés, les gabarits, même le ministère de la Sécurité, de la Protection civile. Si vous avez des policiers qui sont dans la circulation, qui font bien leur travail et qui regardent un camion hors gabarit avec une hauteur qui ne tient pas, il faut arrêter le camion. Il faut dire, gars, serrez ici. Si on peut procéder à des saisies, on procède à des saisies. Ce n'est pas normal. Mais on parle du règlement. La loi, c'est la loi. J'ai toujours dit qu'au Togo, on a un problème, on ne respecte pas la loi. L'État n'a pas de moins coercitif, c'est grave. Écoutez, on nous dit par exemple que quoi ? Qu'il faut 3 mois, 6 mois de pour le loyer, 3 mois de loyer, voilà. 3 mois de caution. Qui le respecte ? Personne ne respecte. Règlement 14 de l'UEMOA, personne ne respecte. Mais personne ne respecte le règlement 14. Le loyer, là, le truc là, personne ne respecte.
Et le mal, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de mesures contraignantes qu'on dise que, mais écoutez, oui, on n'a pas respecté, quelles sont les sanctions, et donc on ne sanctionne
pas.
Oui,
c'est ça le problème. Ça dit que si l'État prend une loi, il faut veiller à l'application de cette loi. C'est normal. Ça, c'est le sens. L'État garant de la loi. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas censés ignorer la loi. On connaît la loi. Mais les gens viennent justement à violer cette disposition légale. Mais l'État a le devoir de mettre des dispositions contraignantes. Quelqu'un viole la loi, quelqu'un fait ceci. Il faut quand même prendre responsabilité. On ne va pas rester là à pleurer les morts tout le temps, à faire des communiqués pour dire 8 morts, 10 morts, 20 morts. Mais la loi, la personne respecte. Mais attendez, à un moment donné, il faut trouver le mécanisme pour que les gens puissent veiller à l'application de la loi. Comment vous pouvez penser que l'État dit 6 mois, loyer, 3 mois de loyer, 3 mois de caution, et les gens prennent 2 ans de caution? Comment vous pouvez comprendre ça? Et ça se passe au Togo. La loi est là, les gens font autre chose.
D'accord. Merci beaucoup, Elon. Cher confrère, on va quitter le sujet. On va s'intéresser à un autre sujet, puisque déjà... Oui, non, mais puisque je sais que...
Elon, tu vois qu'il est en colère.
C'est qu'il fait... comme... Vous lisez sa colère?
Oui, oui, Elon. Lui n'écrit pas comme nous. Tout comme au début. Moi aussi, j'étais en colère. Ce qu'il dit, ce qui est urgent actuellement, c'est le gros porteur qui passe à des heures de pointe. Point.
D'accord. Alors, je voudrais
qu'on la sécurité doit voir ça.
Ok, je voudrais qu'on s'intéresse à cette suspension de Millennium Talent Corporation MCC au Togo. Et il y a le journal Le Médian qui écrit Millennium Talent Corporation Togo, pas d'économie de vérité. Alors, je vous lis juste un extrait de ce communiqué. Le communiqué dit nous nous félicitons des performances remarquables réalisées et sommes reconnaissants de l'appui de la MCC, mais compte tenu des derniers échanges et des exigences de la MCC et qui n'intègrent pas le contexte sécuritaire régional actuel et sa gravité pour les pays déjà fragiles, nous voudrions demander un gel temporaire de 3 à 6 mois du processus de sélection pour le développement du compact du Togo, avait écrit le ministre de l'économie et des finances et Sowe George Bakola. Alors nous avons tous ensemble appris le contenu de ce communiqué et on a compris tout simplement qu'il y a une suspension alors de ce compact par rapport aux années précédentes bien sûr. Alors comment vous avez Michel? Comment vous analysez même d'ailleurs cela?
Non, moi je ne pense pas qu'il y ait un problème. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est peut-être moins de pression, puisque c'est dit dans le communiqué que si l'MDC ne tient pas compte de la situation dans laquelle les pays qui sont confrontés à des crises sécuritaires, si le ne tient pas compte de ça, le gouvernement est obligé de demander quand même, en tout cas, une suspension. Ça ne veut pas dire que le Togo et le Millennium Challenge Corporation, la coopération continue bel et bien. Moi, j'ai pris ça dans le sens du fait qu'on a voulu juste faire pression sur l'institution là pour qu'elle revoie quand même sa notation par rapport à le Togo a raison par rapport aux difficultés auxquels nous faisons face. Il faut quand même, il y a certaines, comment vous les appelez, critères sur lesquels on doit se montrer, en tout cas l'institution doit se montrer souple par rapport au Togo, parce que nous vivons une situation. Et donc, moi je n'ai pas considéré ça tellement, parce que je me dis que c'est juste dans cette coloration, c'est juste un moyen de pression. Sinon, il n'y a rien. Le programme continue. En tout cas, selon mes informations, le programme continue ouais, d'une manière ou d'une autre avec l'État togolais. Ça, c'est clair.
Ah oui, ben pour le moment, on parle alors de suspension, Magola. On parle de suspension et là, alors, d'une manière basique. C'est-à-dire, on va et on remplit des conditions pour prendre de l'argent quelque part. Et finalement, nous décidons alors de suspendre le fait de recevoir cet argent. C'est ça?
Non, mais à vrai dire, c'est la question que je me suis posée également. Parce que MCC, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. C'est un programme qui a longtemps duré.
Et tout récemment,
et c'est les États qui postulent.
Voilà.
Et avant de postuler, vous connaissez tous les critères qui étaient détaillés. Mais si tant est que un critère ou deux critères pouvaient vous gêner, mais à quoi ça sert bon, de se lancer là-dedans, parce que c'est le donateur qui a fixé ces critères. Et donc, si ça peut, comme Michel l'a dit, peut-être un moyen de pression sur l'institution, je veux bien croire. Sauf que, est-ce que le donateur, celui qui a la main tendue, peut faire pression sur le donateur? Voilà des questions philosophiques, énigmatiques, qu'on peut se poser, mais c'est le communiqué que le gouvernement a sorti, on emprunte, ou bien...
C'est ce que vous me posez la question. Ambrose, peut-être on me dira que c'est un peu bizarre. Quand on, il y a d'aucuns qui disaient plutôt que c'est l'État ou l'institution plutôt qui a suspendu le Togo dans cette affaire, mais le communiqué nous démontre autre chose.
Tu sais, personne n'a vu l'argent et le rejeter. Tu as une fois entendu quelqu'un voir l'argent et le rejeter. Mais cette histoire de 400 milliards dans lesquels le gouvernement s'est fourré depuis des années et ont fait des pieds et des mains pour avoir ça, et qu'on me dise que c'est le gouvernement lui-même qui a dit, bon, ok, attendez d'abord, nous on a un problème sécuritaire. Donc, dans 3-6 mois, on va vous situer. Moi, ça m'a paru bizarre. Et j'ai comme l'impression que ce n'est pas du vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème.
Il y a un non-dit.
La veille, j'ai lu un truc de notre confrère Ferdinand Ité qui disait que c'est les autres plutôt qui ont suspendu le Togo pour n'avoir pas rempli toutes les conditions parce qu'il semblerait qu'il reste 4 points. Ils ont, ils ont, ils ont rempli 16 points de condition.
16 indicateurs.
Les indicateurs, il reste 4. Et les 4 là, c'est les PCPC. C'est-à-dire que, si tu permets le terme, c'est-à-dire que quand vous prenez votre temps à abrimer les libertés, simple réunion entre partis politiques, vous n'acceptez pas. Simple manifestation. C'est-à-dire que pour jouer au football maintenant dans certains quartiers, il faut avoir l'autorisation. Pour arroser l'arbre devant son portail,
C'est pas trop dit quand même.
C'est pas trop dit parce qu'on vous dira que la route, c'est une place publique. Que tu as seulement 50
centimètres. Arroser l'arbre, ça ne
c'est
va jamais.
C'est ce que j'ai lu de mon ami le préfet Diabali.
Ça ne va jamais.
Ça, c'est juste une parenthèse. Revenons aux MCC. MCC, que le Togo attend comme la clé du sésame depuis les délustres. Et qu'on nous dise aujourd'hui que c'est le Togo lui-même qui dit « Attends d'abord, je ne veux plus encore les 400 milliards. » Non, 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 moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas pour vous dire qu'il y a un souci, il y a un problème là-bas. Tant que les libertés, la démocratie ne sera pas lue clairement dans les élections au Togo, dans les critères au Togo, surtout au niveau des libertés de manifestation, liberté de réunion, la liberté de presse d'une moindre mesure, je ne crois pas que les 400 milliards viennent au Togo. C'est-à-dire que les 400 millions ont choisi d'aller ailleurs que de franchir les frontières togolaises. Donc, pour ces histoires de terrorisme aussi, parce qu'on parle de sécurité, donc, moi, je vais prier que dans 3 mois, dans 6 mois, le gouvernement lève toutes les restrictions sur les réunions et manifestations publiques au Togo. Et on va avoir les 400 milliards.
D'accord. Et alors, c'est vrai que tout récemment, il y a l'État américain, le département, bien sûr, alors de l'État américain qui a fait sortir un communiqué, surtout sur la question de liberté et tout. On a vu quand même que l'État togolais a été épinglé hein, dans ce communiqué ou cette sortie du département américain. Est-ce que quand on met un peu le lien, est-ce que ça veut dire que cela pourrait être aussi à la base de cette suspension?
Bon, vous savez, c'est l'État qui a décidé de suspendre le processus pour 6 mois, justement à cause des défis sécuritaires et d'autres challenges. Il ne me revient pas de me prononcer à la place du MCA, parce que c'est un processus que je suis de très loin, il faut le dire. Les critères, oui, on les a. On a toujours eu des échos de l'avancement, dans le cadre de ce processus-là. Et la surprise, depuis quelques jours, c'est que l'État décide de pouvoir suspendre le processus. C'est vrai que c'est assez surprenant, il faut le dire. Mais on attend aussi la réaction du MCA pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ou bien, comment est-ce qu'ils ont accueilli la nouvelle du Togo? Qu'est-ce qu'ils en pensent réellement? Et parce que jusque-là, on a jusque la position de l'État pour des contraintes sécuritaires. Bon, c'est vrai, quand on parle du budget 2025, qui n'est pas encore voté, il faut le dire, on attend toujours le vote du budget. Et quand on prend aujourd'hui le budget, là, on peut se dire qu'il y a, on fait la part à la sécurité, à la défense, parce qu'il s'agit des questions de terrorisme. Mais moi, j'ai toujours dit aussi sur ce plateau, la dernière fois, encore je l'ai répété, j'ai dit en 2025, il faut que le budget puisse inclure des questions de développement qui sont quand même des questions pertinentes. Quand nous prenons par exemple la question des inondations, 2000, après cette saison, on va retomber dans la période des pluies. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va revenir sur ce plateau pour dire il y a inondation ici, il y a inondation là, on est en train de pomper ici, la NPC fait ceci, les motopompes sont louées là. Est-ce qu'on va revenir répéter la même chose, mon frère? Cher confrère, moi, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui en matière d'assainissement? En matière de... Parce que la question des retenues d'eau n'a réglé aucun souci à ce jour. Les retenues d'eau sont tombées dans le décor. Elles ont créé plus de problèmes que de solutions. Les gens qui auparavant n'avaient pas de retenue d'eau dans leur quartier sont aujourd'hui inondés parce qu'on a créé une retenue d'eau. Alors que la retenue d'eau était censée régler un problème de flux d'eau. Le prochain budget doit concerner aussi la lutte contre le changement climatique. Si vous regardez bien à l'intérieur du pays, sur l'année 2024, vous avez vu les défis liés justement au problème les défis liés à la sécheresse ou aux terres cultivables. Cette année particulièrement, il n'a pas plu. Les pluies se sont fait rares. Les récoltes n'ont pas suivi. Que ce soit au niveau du coton, dans le soja, dans plein de cultures. Mais Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les paysans qui n'ont pas pu justement avoir des récoltes suffisantes sur les terres, ils ont augmenté leur surface. Ils sont en train de pouvoir, parce qu'ils ont peut-être des gens ont cru que c'est pas la superficie qu'ils ont. Donc les gens continuent d'augmenter leur surface pour pouvoir mettre d'autres récoltes afin de pouvoir rattraper ce qu'ils n'ont pas pu récolter. Et les terrains qu'ils sont en train de prévoir, c'est peut-être des espaces qui sont réservés pour la transhumance. Vous savez qu'il y a des périodes de transhumance. Et ça crée d'autres problèmes. Il faut régler ces. Il faut que le budget 2025 concerne cela. On ne va pas revenir sur ce plateau pour reparler inondation. Voilà tel quartier. Il y a une grosse pluie sur la capitale. Tel quartier inondé. Tel quartier. Les retenues dont lâché. Et on va voir encore nos autorités. Allez, voilà. Et vous regardez les retenues. On va mettre des motopompes. On va nous dire que bon, on s'est levé rapidement. On est allé voir. On fait ça depuis des années. Il faut un vrai plan de canalisation. D'accord. Si on doit détruire les retenues d'eau, les niveler et aller trouver d'autres solutions, il faut quand même un vrai plan de canalisation.
D'accord. C'est très important. Ok, c'est très important. Alors, Jean, parlons toujours alors de la MCC, cette suspension. Alors, c'est vrai, tout récemment, on a vu le secrétaire de la présidence et également gouverneur de la Banque mondiale, Madame Johnson, qui a eu à organiser un atelier, même d'ailleurs, sur les indicateurs validés par le Togo dans cette question de MCC. Et finalement, et ça a été même d'ailleurs une prouesse pour le Togo avec ces réformes opérées par-ci, par-là. Mais finalement, on nous dit que l'opération est suspendue ou du moins le mécanisme est suspendu. Est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe?
Paradoxe, oui, c'est possible. Il faut juste comprendre que la décision du Togo est vraiment surprenante et étrange, mais pour le moment, nous n'avons que la version du gouvernement togolais. Et comme les autres l'ont dit, j'ai également découvert la nouvelle sur les réseaux sociaux, comme quoi le Togo voudrait suspendre temporairement la coopération avec le MCC pour 3 à 6 mois. On parle de défis sécuritaires et de plusieurs challenges, plusieurs contraintes qui semble-t-il peuvent créer une discorde ou bien des dysfonctionnements au niveau de la cohésion sociale. Mais moi, la question sur laquelle je suis resté sur ma soif, c'est la question des critères, en fait. On parle de certaines conditions, mais personne d'entre nous ne sait, en fait, quelles sont les conditions qui ont été demandées à l'État togolais, quels sont les critères, en fait, qui posent problème. Parce que, comme tu l'as si bien évoqué, quelques semaines plus tôt, il y avait une conférence pompeuse pour nous dire que le Togo a validé beaucoup d'indicateurs. Et nous, on se disait que bon, ça va sur de bonnes routes pour le Togo. Donc, probablement, le compact n'est pas loin. Mais patatras, quelques semaines plus tard, on nous parle de certaines conditions. Nous, en tant qu'hommes de médias, on a pris acte jusqu'à ce que peut-être le MCC nous donne une version, je vais dire, plus détaillée. Ou peut-être que on ait vraiment les critères. Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Là, on pourra valablement se prononcer. Si nous, actuellement, nous supputons, moi, je dis peut-être que nous discutons du sexe des anges, en fait, parce que on ne peut discuter que sur la base de ce que nous avons. Et n'ayant pas vraiment toutes les coups de franche, on ne peut que peut-être tâter le terrain. Mais moi, je dis une autre chose. Oui. Vous savez, ces histoires de toujours avoir la main tendue, se plier aux critères des uns et des autres, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris notre développement en main. Moi, écoutez, ça m'écœure qu'on soit aujourd'hui au 21e siècle et que mon pays, le Togo, comme à l'instar de plusieurs pays africains, tend toujours la main pour avoir des dons, des financements. On dit notre agriculture, c'est un pays asiatique qui va nous donner de l'engrais. On dit qu'il a plu quelque part. J'ai un pays qui va nous donner les motopompes. Mais on est indépendant depuis combien d'années? Ça fait plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous devons prendre notre développement. Mais tant que nous serons toujours là, avoir la main tendue, mais souffrir qu'on va nous imposer des critères, on va nous demander, faites ci, faites ça. Bon, un disait sur le plateau, mais qui a vu l'argent, l'a refusé. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec cette histoire de LGBT, il y a beaucoup de financements qu'on offre aux pays en voie de développement. Mais beaucoup refusent parce que nous avons nos mœurs, nous avons nos valeurs qu'on ne veut pas souiller. Voilà. Quand nous-mêmes, nous prenons en main notre développement, on est conscient. Ayons une vision commune, réfléchissons vraiment. D'ici tel nombre d'années, on ne veut plus être dépendant,
on veut avoir, on veut voir notre pays à tel niveau. Je crois que si tout est fait et les finances publiques sont véritablement assainies, nous n'aurons plus à dépendre de qui que ce soit, attendre que quelqu'un nous donne des instructions. Regardez comment la Russie tient tête à plusieurs pays aujourd'hui, qui jadis pensaient qu'ils étaient les détenteurs du droit de respirer des autres pays. Mais quand vous avez, hein, je veux dire, les mains de votre destinée, vous ne pouvez plus vous soumettre à certains critères.
D'accord. Alors, oui, mais Ambroise, je voudrais qu'on quitte le sujet, puisque notre temps évolue. On va s'intéresser au sénatorial avec les travaux même d'ailleurs du CPC, cadre permanent de concertation. C'était le mardi dernier que les travaux se sont déroulés. Mais quand on prend déjà l'ordre du jour, il y a pratiquement 5 points à l'ordre du jour, mais finalement, c'est la question des sénatoriales qui a tellement dominé le débat. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui a d'abord présenté les points de préparatif, même d'ailleurs de ces sénatoriales qui auront lieu le 2 février prochain. Alors, Ambroise, c'est vrai que dans cette rencontre aussi, il y a les partis politiques de l'opposition et les regroupements politiques, bien sûr, qui ont fait savoir au ministre leur désaccord par rapport au sénatorial, mais on dirait quand même qu'ils sont aussi dans leur rôle.
Oh, d'abord, en la forme, le problème même du cadre posait problème quant à son inclusivité. L'inclusivité, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas formellement dedans, mais qui représentent quelque chose en matière d'adhésion populaire. Ensuite, on a aussi comme l'impression que c'est des menus fretins qui se retrouvent dans ce cadre. C'est-à-dire menu fretin, c'est-à-dire des partis qui ne représentent pratiquement que quelque chose, eux-mêmes, ou 0,000005%. J'ai bien cité les 0, ça fait 5-0. Et pour justement dire que s'ils tiennent que ce cadre soit crédible aux yeux de l'opinion publique nationale, que ce cadre apporte quelque chose à la démocratie qui souffrent chez nous au Togo, il faut qu'ils revoient leur copie vis-à-vis des acteurs politiques qui sont en face. Et qu'on intègre la société civile à ce cadre-là. Je ne parle pas de société civile bipolarisée. Je parle bien d'une société civile avisée et crédible. Les sénatoriels dont on parle, tu connais la position de certains partis politiques sur le sujet, y compris nous, moi particulièrement, qui avait toujours dit, sur le plan institutionnel, que ce Sénat est une institution inutile. Inutile dans tout son sens. Et budgétivore. Le comble, c'est que ce, on donne la latitude au chef, au fameux chef du Conseil, qui va remplacer le président de la République, élu bientôt, de désigner ou de nommer un tiers du Sénat. Où se trouve alors la démocratie? Et donc, si c'est autour de ça, de cette institution budgétivore et inutile, que parle le CPC, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans parce que déjà, certains annoncent leur couleur tout en demandant au chef de l'État de les nommer au Sénat. Tu suis bien mon regard.
Non, mais je vous comprends.
Quand certains ont fatigué les arènes politiques et eux-mêmes sont fatigués parce que personne ne les vote, personne ne leur apporte quoi que ce soit, je parle bien de mon ami et grand frère.
Quand
il sera ici, je peux lui rappeler ça.
Non, mais déjà, j'ai posé la question à Maître Tassou.
Mais je le comprends.
Aujourd'hui, tout récemment, enfin, lors de ses travaux, il a dit qu'il n'a que dit ce que les gens disent. Alors, il dit haut, ce que les gens disent tout bas.
L'angle qu'il est en train de choisir, qui n'est pas à écarter, c'est le fait que quand on dit que le chef du Conseil nomme un tiers, s'il nomme au moins certains opposants, les opposants à plusieurs couleurs, là, il peut y avoir un équilibre au niveau de la Chambre, là. C'est-à-dire, en termes de vote ou d'analyse de certaines lois. Mais Fonia Singbe ne viendra pas nommer quelqu'un qui ne soutiendra pas unir au Sénat. Je l'ai déjà dit ici, unir appartient déjà, l'Assemblée déjà appartient à unir,
la présidence s'est unie, la primature s'est unie, l'Assemblée même s'est unie, le Sénat bientôt uni. Donc, même quand on nomme un Sassana Traoré, un... Tu permets ? Il y a d'autres. Je ne veux pas citer des noms pour me créer inutilement des ennemis ici. Lorsqu'on va les nommer au Sénat, ils feront un débat à la Bayrou. Tu comprends?
Non, je comprends. Okay. Ok, d'accord, merci. Alors, oui, Michel, pour cette proposition de Maître Tassona, on a compris quand même que le corps électoral aujourd'hui, le corps électoral pour les sénatoriales, pratiquement, c'est à 95% à l'acquis à l'heure de l'UNI. Est-ce que, déjà, pour faire un jeu de démocratie, pour que l'opposition aussi soit là, pour que les choses soient, enfin, les débats soient contradictoire, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller vers cette proposition alors de Maître Tassona?
Pourquoi on devrait aller vers cette proposition?
C'est-à-dire pour que l'opposition
soit représentée. D'abord, Pascal, tu sais, bon, ma position n'a pas changé. Hein. Par rapport au sénateur, ce que j'attends, c'est de voir qui le père va nommer. On va scruter de très 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 près tous ceux-là qu'il va nommer. C'est ça qui m'intéresse. Si ces élections-là, nous on a déjà fait nos élections, hein. En 2018, on a élu, de 2019, on a élu les conseils municipaux et tout récemment, on a élu
2024,
les conseils régionaux. Donc, nous, on a déjà fait notre travail. Si ces informations bon, qui veulent s'organiser entre les partis politiques, bon, moi, ça ne me regarde pas. Honnêtement, ces élections-là, moi, ça ne me dit absolument rien.
Puisque c'est
les arrangements entre partis politiques. D'abord, toi, comment les gens commençaient à crier que nous voulons être dedans. Pourquoi la démocratie, c'est comme ça se fait, où bon, on appelle des gens, bon, moi, je veux venir aussi. Hein. C'est ça aussi la démocratie. Quand on nous dit, bon, vous voyez, ça là, on doit, ces gens d'individus-là, on ne doit pas les laisser ou les suivre dans, comme ça, dans leur errement. C'est quoi cette histoire? Vous savez, actuellement, la majorité, ne me demande pas c'est combien au Parlement c'est uni. Uni n'a 80, moi c'est 6 ans. Il ne faut pas que demain qu'on vienne nous dire que c'est celui-là qui était là, qui bavardait beaucoup et qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait. Non, unir a gagné et que unir gouverne. Ça c'est clairement, c'est ma position. Unir a gagné. Que des gens, bon, si quelqu'un a faim, s'il veut négocier, qu'ils le disent en cachette avec eux. Ce n'est pas la peine de venir devant les micros. C'est pour dire que, bon, nous, on veut aussi aller là-bas. Chose. Nous, on attend hein, la nomination. C'est combien ils sont là? Il y a 41 qui seront élus, non?
Oui,
et 20. Les 20, là, on les attend pour voir qui est dedans.
D'accord.
Si ces élections-là, c'est entre partis politiques, ils s'arrangent. Actuellement, ils sont en train de négocier. D'accord. Ils font ça. Ça ne nous intéresse pas.
D'accord.
Okay. Nous, on a déjà élu les grands électeurs.
D'accord.
Maintenant, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux là-bas.
Ok, merci. Merci, Michel. Voilà, Magula, vous avez aussi la même appréhension des choses?
Oui, oui. Non, mais écoutez, Michel n'est pas le seul à dire cela ou à penser comme cela. Vous savez, ce qu'on a demandé au peuple togolais, même si on aurait voulu faire mieux que ça, aujourd'hui, on a quand même une base. C'est-à-dire qu'en 2018, on a élu les conseillers municipaux.
2019
oui. Plutôt. En avril 2024 dernier, on a élu les conseillers régionaux. Basta. Le peuple togolais a déjà fait sa part. Le reste, comme Michel l'a dit, c'est des petites négociations entre les partis. Encore que, d'abord, Unir a gagné avec une majorité très écrasante. C'est ce que la CENI nous a annoncé. Et à la veille, n'est-ce pas, de ces élections sénatoriales, des partis politiques de l'opposition annoncent naturellement qu'ils ne prendront pas part ou ils ne sont pas intéressés. Ça voudra dire que c'est un jeu 100% ou 1000 pour 1000 unir. Alors, quel est l'intérêt peut-être pour un acteur politique de vouloir quémander entre griffes un poste au Sénat? Unir a gagné, on l'avait dit, que la réalité c'est que quoi? Quand on dit c'est 100, combien ça? Le score de Unir aux régionaux.
C'est 108.
108, non?
Oui,
813.
813.
Voilà. Ça voudra dire
pas que. Pas aux régionaux.
Non, ça, c'est non, pas aux c'est législatif, bien sûr.
Justement, à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que si tant est que le peuple togolais a accordé sa confiance à ce degré à Uni, mais il faut lui laisser le temps de travailler. Mais la réalité, c'est que 5 ans ou 6 ans après, Uni n'a plus de raison à avancer pour expliquer pourquoi un Togolais n'a pas trouvé à manger. La réalité, c'est ça. On a gagné, oui, d'accord, mais c'est un gros piège. D'accord. Et donc, il faut laisser Uni gérer. D'accord. Et après, il reviendra devant le peuple togolais pour faire le bilan. Et s'il y a à questionner, on questionnera. Mais dire que, ben, il faut qu'on coupe des gens, ou même pour ceux que le chef de l'État doit nommer là. Michel disait tantôt qu'on va scruter. Mais j'ai dit, mais je serai à la place du chef de l'État, je nommerai même ceux qui sont même très proches de moi. Comme ça, on sait que c'est tout est bleu d'accord. à la ligne.
Alors oui, mais Elon, est-ce que cette proposition de mettre Tiassona Traoré sous d'autres cieux, est-ce que ça ne va pas aller mieux? Peut-être que déjà quand on prend au Togo, on se dit nous avons une politique un peu atypique. Et donc, si peut-être, lui-même il le disait la fois passée, que c'est une proposition qu'il a faite, et avec cette proposition, si c'est sous d'autres cieux, peut-être que ça marcherait et que ici au Togo, on trouverait des difficultés.
Non, il faut arrêter la pagaille. Vous savez, quand on est responsable politique et qu'on regarde ce qui se passe véritablement, comme Michel l'a dit tout à l'heure, il y a de ces propositions qu'on ne peut pas faire. Vous pensez que le problème du Togolais maintenant, c'est que quelqu'un aille proposer que bon, nous, on veut aller s'asseoir au Sénat?
C'est ça qui nous intéresse.
Non, mais ce n'est pas ce qui intéresse le Togolais. Mais quand les gens se réveillent, quand les gens se sont réveillés ce matin, là, vous pensez qu'ils se sont demandé même qu'est-ce qu'il a dit là-bas la dernière fois? Non, ce n'est pas leur problème. Mais attendez, si vous-même, vous voulez faire votre propre publicité, ou vous voulez chercher votre propre réseau, depuis qu'on a commencé cette histoire de sénatorial, est-ce que vous avez entendu un seul parti politique? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'on va aller sensibiliser les Togolais sur l'importance du Sénat? Qu'est-ce que les Togolais ont tiré de ça? Eux-mêmes, ils n'ont jamais pensé à faire un truc comme ça. Le président de ce parti qui propose ça, est-ce qu'il est allé sensibiliser ses propres militants sur les
sénatoriales? Il est même le président du CPC.
Est-ce qu'il a sensibilisé ses propres militants sur les sénatoriales? C'est quoi? Quel est le rôle d'un sénateur? Qu'est-ce qu'un sénateur fait? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement dans notre région? Dans l'architecture de voilà, qu'est-ce que ça nous apporte? Maintenant, il vient se lever et dit que le président n'a qu'à proposer ou bien nommer des gens de l'opposition là-bas parce que ça va pas permettre de. Ça va faire quoi? Si les gens veulent manger, ils n'ont qu'à dire clairement on veut manger. Vous savez que.
Mais encore là, qu'ils appellent
à 1h du matin, qu'ils négocient ça loin de nous. Que de venir nous dire ça comme ça.
Oui.
Parce qu'en le disant même, c'est une insulte à l'endroit des militants de Unir. Parce que les gens travaillent, ils ont gagné.
Oui.
Maintenant, on dit qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles. Nous aussi, on veut venir aussi. Ça veut dire quoi?
D'accord. Jean, en suivant d'abord Pascal Adoko, qui est le représentant même d'ailleurs de la DMP ou de la CDPI au CPC, en le suivant, au sorti des travaux la fois passée, il dit qu'il a comme l'impression, à travers les propos même d'ailleurs du ministre, il a comme l'impression qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir est en train de chercher les adversaires pour aller à ces sénatoriales. Est-ce que finalement, on pourra dire qu'il y a des difficultés qu'on trouve alors dans l'organisation de ces sénatoriales?
Difficultés? Non, moi je ne trouverai pas qu'il y a des difficultés. Vous savez, la cartographie du pays a changé depuis le 29 avril 2024, la cartographie politique, il faut le dire. Unir a remporté tous les députés. Les conseils régionaux, ils ont plus de 70%.
Pas tous les députés.
Presque. C'est-à-dire, c'est presque maïs en fait. Les conseillers régionaux, ils ont la majorité. Maintenant, quand on met en place le Sénat, quand le corps électoral est à presque 2/3, bon, 115% favorable déjà à Unir, et les autres disent que dans les 20 que le chef de l'État va nommer, qu'on nomme quelques opposants pour qu'il y ait une certaine quel équilibre peut-il y avoir? En fait, je ne sais pas si les gens nous prennent pour gens qui ne réfléchissent pas au comment. C'est impossible qu'il ne peut plus y avoir d'équilibre. Il y a déjà la majorité. Même si on nomme les 20 sénateurs, même s'ils sont nommés dans l'opposition, ça ne changera absolument rien. Donc, il faut que les gens comprennent que bon, les gens prêchent pour leur chapelle, en fait. Parce qu'ils ont compris que advienne que pourra, Unir a déjà tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, au moins, nous aussi, on va aller s'asseoir là-bas. S'il y a quelque chose, nous aussi, on va manger. C'est ce que les gens sont en train de réfléchir. Parce que, même si qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ce que actuellement le parti Unir voudra faire, il le fera.
Mais juste, bon, les gens ont compris que, bon, même si le train est déjà en train de partir, il faut que nécessairement, même si on est à l'extérieur, on ne va pas manger. Autant mieux qu'on saute dans le train, même si ce n'est pas la fenêtre. Nous, si on est dans le train, on peut attraper quelque
D'accord,
chose.
D'accord, ok. Voilà. Merci, cher confrère. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Je sais que nos auditeurs sont pleins à nous écouter et ils vont certainement intervenir dans cette émission. On va revenir là-dessus. Et on reviendra là-dessus à coup sûr. Et donc, on va donner la parole à nos auditeurs. Mais bien évidemment, on fait un clin d'œil à nos annonceurs d'abord.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Oui.
Bonjour Pelé.
Bonjour.
Comment vous allez? Allez-y.
Je salue le plateau. Bon, pour le thème d'aujourd'hui, c'est d'abord un petit. Je pense que on peut dire que c'est un manque à gagner pour le peuple togolais, pour la population togolaise. Mais ce qui est marrant, c'est que si les gens vont considérer comme bon, ce n'est rien, c'est dommage. Parce que ce n'est jamais de passage. C'est ce que vous allez faire. Je suis dans un pays comme vous dites, il n'y a pas les détenus politiques, alors que c'est plein. Il n'y a pas, c'est-à-dire, l'état de droit n'est pas là. Je pense que nous avons appris que les experts, les sénateurs américains, étaient là sur le terrain. Alors, ben, tout ça là, maintenant, les choses sont là, claires, noires et blanches. Il n'y aura plus de la démocratie pour la vie. Mais le sentiment est que l'état de droit, au moins, si vous n'allez pas accepter les vraies élections, au moins, il faut accepter l'état de droit. Maintenant, pour arriver sénatorial, les élections sénatoriales là, je pense qu'il y a aussi une marge de manœuvre pour l'opposition de gagner quelque chose là-bas. Maintenant, il faudrait qu'on laisse le ministère s'aventurer dans sa, c'est-à-dire sur la voie de la transition pour aller à la cinquième république, ou bien si c'est déjà la cinquième république, on ne sait pas. Mais si c'est sénatorial là, qui peut amener le peuple togolais, ou bien le régime RPT, à gouverner comme les autres pays, comme le Bénin. Bon vent, c'est ce que nous voulons. Tout serait sénatorial seulement, parce que toutes les institutions sont dans les mains du président de la République. Il n'y a pas d'opposition à quelque part qui gêne le régime RPT. Alors, je pense que les matchs de manœuvre, il n'y en a pas. Si on peut trouver, peut-être que si vous voyez un opposant élu là-bas, c'est parce qu'il a fait le jeu d'alliance avec le RPT. Deuxième manœuvre, vous allez dire pardon au président Ford de vous nommer. Maintenant, là, en conclusion, il ne faut pas que ces gestes-là rejoignent qui sont toujours des opposants.
D'accord. Okay.
C'est essentiel.
Merci Pelé pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, mon appel aujourd'hui, juste pour souhaiter bonne fête à tous les journalistes qui interviennent sur le plateau du Club de la Presse dans la pertinence et la diversité des débats. Et comme l'a dit l'ancien secrétaire de l'ONU, Kofi Annan, il n'y a pas de sécurité sans développement, et il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, merci pour les différentes mesures prises par le gouvernement, et surtout pour les primes octroyées aux fonctionnaires pour les fêtes. Le bémol, c'est que quand toutes les institutions sont pour la cause d'un seul parti, ça ne fait pas trop challenge ni démocratie. D'accord. Merci Canal FM.
Merci Nestor pour ces appréciations. Bonjour Canal FM. La plupart de nos pays africains, après application des lois, il n'y a jamais alors de suivi pour cela. Comment le peuple pourrait tout mettre en application? C'est là le problème. Et c'est André qui nous suit depuis Dakar. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Bonjour, plateau. Oui, moi, je voudrais féliciter au moins le président de la République et il n'a pas oublié le peuple togolais. Mais seulement, il nous a ciblés. Pourquoi je dis cela? Il a fait une mini novice, il n'a pas fait novice blibo. Parce que nous qui l'incitons chaque matin sur les antennes, il doit nous au moins faire novice. Dieu a dit, il faut parler, il a dit, il faut adhérer, il n'a qu'à faire novice pour nous aussi parce que ceux qui travaillent dans le fonction public ne peuvent jamais le critiquer. Donc, il n'a qu'à faire nos visites pour nous, pour qu'on commence encore l'année prochaine à faire nos péchés sur les antennes. Merci, bonne journée.
Merci, monsieur Gado, pour votre intervention. Bonjour, les amis. Vraiment, certains opposants n'ont plus rien à faire et à démontrer sur le terrain politique. C'est ça qui entraîne alors des atalakous de certains opposants, soi-disant, à aller au Majois. Bonne émission, c'est monsieur Nyamaku. 90. Allô, allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
C'est Canal FM.
Oui, c'est Canal FM. Votre nom, c'est...
Allô?
Oui, c'est Canal FM. Votre nom?
Allô, allô.
Décidément, il n'a pas de retour, Michel. On va recevoir notre auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Allez-y.
Oui, les gens félicitent. Je ne sais pas, dans d'autres pays, c'est comme ça que ça fonctionne. L'alternance, c'est mieux. Vous voyez comment l'Amérique commence, si on leur demande là-bas, pourquoi ils prennent le pouvoir en janvier, ils vont vous dire que deux divers printemps, en été, ils vont beaucoup maximiser, et en automne, donc ça fait 4 ans, 4 saisons. Mais je ne vois pas, oh, ils vont nous quand même expliquer. Hein? Dans d'autres pays, c'est 13 mois, les gens ne vont plus parler de nos ici. C'est nous qui allons acheter, et ça va profiter aux gens de nos ici. Aujourd'hui, un fonctionnaire peut commander peut-être une chèvre à près d'un paysan, commander les ignames, les poules, et aujourd'hui, c'est ce passage. Comment ça se sent-il? On nous a donné, c'est de ta foi proche, les gens crient que merci, merci, ou bien c'est pour l'État. Bonne émission.
Merci beaucoup, monsieur Nyamavo. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, et vous?
Ça va aussi, c'est Patrick?
Exact.
D'accord, allez-y. Je reconnais bien la voix.
Pardon?
Je reconnais bien la voix.
Ah, voilà, ouais. Voilà, ouais. Félicitations.
Merci.
Je salue les autres confrères qui sont là-bas.
D'accord.
Premièrement, pour l'opération vigilante, nous voulons que ça soit un truc terrain. Pas que c'est au moment de la fête qu'on va voir ce déploiement. Parce que les sécurités dans les zones où les gens s'installent présentement, il y a des difficultés. Pas plus que la dernière fois sur vos antennes, j'ai pris les cris d'alarme d'une dame de comment on appelle le quartier là, sur la route, après l'échangeur de Tégué tout droit là. Gablé. Voilà, la dame qui criait que quand elle part pour le service, ben, c'est de leur retour, c'est seulement les voleurs qui viennent dérober tout dans la maison. Donc, surtout les nouveaux quartiers, que ça soit effectif là-bas, pour que ces gens-là ne viennent plus dévaliser la paisible population. Et pour finir, c'est bien beau ce que le président fait concernant l'argent, là, les 60 000 là. Mais quelqu'un vient de le dire aussi. Dans les services, présentement, il n'y a pas que les fonctionnaires. Il y a aussi des contractuels, des gens qui ne sont pas encore engagés. Mais nous tous, nous vivons la même chose, que ce soit contractuel ou agent CDI. Nous vivons la même chose pour ces gens-là. Vraiment, qu'à l'avenir, qu'on trouve une solution, comme on vient de le faire pour les enseignants du confessionnel. Il va falloir qu'on trouve aussi une solution pour les contractuels dans les services.
D'accord.
Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous de nous avoir appelés. Chers confrères, nous allons revenir en plateau et pour la réaction alors de fin d'émission. Je souhaite quand même qu'on fasse cet exercice, comme l'a écrit le journal Canal D ce matin. Togo rétrospective 2024. Retour sur les faits marquants. Alors, Jean Polerini, je voudrais bien sûr que vous vous rappelez juste à l'heure d'un fait marquant de l'année 2024 et faire votre commentaire là-dessus. On va donner la parole également à chacun de nous de le faire ainsi. Jean?
Oui, Pascal, le fait marquant que je retiens, c'est l'entrée du Togo dans le régime parlementaire et la 5e République. Au plan politique, c'est un cap que le pays a franchi cette année et nous faisons donc partie de ces pays qui ont adopté le régime parlementaire et par conséquent nous sommes rentrés dans la 5e République qui carrément bouleverse et chamboule le paysage politique togolais avec de nouvelles réformes. l'histoire retiendra que 2024 a été cette année où notre pays s'est doté d'une nouvelle vision sur le plan politique.
D'accord. Ambroise, un fait marquant de l'année 2024 avec des commentaires ou l'analyse là-dessus?
Le fait qui m'a négativement marqué, c'est le changement de République. On n'a pas fini d'expérimenter la 4e République. On ouvre les portes d'une nouvelle République. Et de quelle façon? De la façon la plus exclusive possible, sans consulter le peuple, sans demander l'avis de gens. On est allé au forcing. Et là, on nous dit que nous sommes dans la 5e République. Sauf que le président de la République porte toujours le nom de président de la République, qui est lié à la 4e, à la Constitution de 92. Et donc, moi, tout ça là n'augure pas de bon lendemain. Vous savez, d'ici quelques mois, je crains que les initiateurs tombent devant un mur et ils ne se résoudront pas.
D'accord. Et l'homme?
Bon, moi, je dirais que cette année qui est en train de finir, c'est une année qui a été pas un peu, mais très difficile, il faut le dire. Et ce qui quand même marque les esprits, c'est le pouvoir d'achat du Togolais qui s'effrite. Et moi, particulièrement cette année 2024, dans toutes les maisons, dans la rue, vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, le Togolais a un pouvoir d'achat qui s'effrite de jour en jour. C'est considérable. Ce n'est pas, on ne peut pas dire oui, que bon, tout va bien, non, mais ce qui se passe est considérable, c'est sérieux. Je crois que ça marque. C'est ce qui, moi, me marque parce que l'inflation est réelle. Les coûts ne font que flamber. Mais le pouvoir d'achat du Togolais s'effrite de jour en jour. Il faut des mesures additives. Il faut que, au niveau du gouvernement, de l'État, on puisse veiller aux lois qui sont votées. Les lois sont là et il faut veiller à leur application. C'est très important.
D'accord.
Et aussi revoir un certain nombre de choses sur le plan économique et financier.
D'accord. Merci beaucoup, Michel.
L'événement, je pense que à l'international, on peut parler.
Oui, oui, il n'y a pas de souci.
Au Togo, c'est le pouvoir d'achat, comme on le disait. Et avec l'âge que j'ai, c'est la première fois que j'ai constaté que vraiment, quand vous circulez, parce que moi, je sors beaucoup, je sillonne un peu le pays. J'ai vu que la situation est très difficile. Et ce que le chef d'État vient de faire, c'est une bonne chose. Mais je trouve que c'est conjoncturel. Il faut créer des situations pour pérenniser vraiment, pour pérenniser ce soutien, j'allais dire, aux Togolais, aux fonctionnaires, à tous les Togolais. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires se jubilent, mais les autres sont là. Donc, créer ces conditions pour que, à long terme, il semble qu'il y a un conseil des ministres aujourd'hui. On ose espérer. Peut-être qu'il y a encore des mesures qui pourront sortir dans le sens aussi de soulager les Togolais. Nous osons croire, nous croisons les doigts. On ne sait jamais. Mais à l'international, il y a un fait. C'est le changement climatique. Bon, si l'eau a emporté les véhicules à Dubaï, si les gens sont morts d'inondation au Niger, au Mali, au Burkina et tout, au Tchad, mais je me suis dit, alors là, mais vraiment, ça veut dire que la situation est très... Ceux qui vont sur le changement climatique font des sommets, mais ils ne trouvent pas de solution. Je me dis qu'il va falloir qu'on refuse de donner des billets d'argent à des gens qui vont à des sommets où on ne trouve rien comme solution.
D'accord.
C'est pas la peine.
D'accord. Magola, une minute.
Oui, à part ce que les confrères ont dit, différents secteurs, moi, ce qui m'a plus marqué, particulièrement cette année 2024, c'est quand le Glee catholique, le clergé a été un peu fouetté dans son amour propre par le décès de trois cardinaux, enfin pas cardinaux mais trois évêques, Monseigneur Podjuro en tout début d'année, suivi de Monseigneur Joliba et de Monseigneur Bariga. C'est un fait plutôt rare. C'est vrai que d'aucuns diront que c'est la volonté de Dieu, mais c'est quand même un fait rare que dans une seule année, qu'on perde comme ça trois évêques.
D'accord.
Prions pour le repos de leur âme.
D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Puisque nous sommes à la fin de cette émission, merci pour cet exercice-là que vous venez alors de faire. Je tiens à vous dire merci pour votre passage au Club de la Presse tout au long alors de cette année. Et j'ai toujours aimé votre constance aussi dans les prises de parole et aussi également dans la prise de votre présence alors au Club de la Presse. Merci beaucoup.
Bonne année
à vous tous.
Aux lecteurs.
Justement, bonne année. On va souhaiter justement, puisque nous,
bonne année à tout le monde.
Moi, je suis là toujours encore avec les auditeurs, mais ce qui est sûr, c'est le dernier jeudi. Magola, merci à toi d'être passé dans cette émission.
Le plaisir est pour moi.
Michel, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Et l'homme,
merci Pascal,
d'être passé. Merci beaucoup. Et Jean Bollorini, merci.
Pascal,
Ambroise Pondo, merci d'être passé
merci
aussi dans cette émission.
Aussi.
Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis, l'exercice que nous avons fait tout de suite avec les confrères journalistes. Nous le ferons le mardi 31 décembre avec vous, auditeurs aussi, pour savoir exactement ce qui vous a marqué tout au long de cette année 2024 et aussi votre analyse. Alors, sur ces faits, nous en parlerons dans une émission spéciale que nous allons animer. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Michel Tomega était à la mise en onde. Jérôme Dakoutsa était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.